Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En plein débat sur le Brexit et sur la succession de Theresa May, Donald Trump est au Royaume-Uni. Il rencontre ce matin la Première ministre dans l'idée d'accélérer les échanges commerciaux avec Londres. Vous le comprendrez, un accord n'est toutefois pas encore trouvé.
Gérard Larcher entre en scène. Le président Les Républicains du Sénat réunit aujourd'hui des représentants de la droite et du centre. Il souhaite fédérer autour d'un projet commun. Mais les critiques s'élèvent déjà, vous l'entendrez.
Dans ce journal encore, nous nous pencherons sur la mobilisation annoncée des cheminots de la SNCF ce mardi. Un an après la réforme ferroviaire, ils veulent peser sur la nouvelle convention collective.
60 millions d'euros d'économie plutôt que 20 millions. La direction de Radio France dévoile son plan pour les 5 ans à venir. Des ambitions numériques, un nouveau pacte social et déjà de grandes craintes chez les syndicats.
Pourquoi les petits partis politiques veulent-ils tous ouvrir les portes et les fenêtres ? Frédéric Saïs, dans son billet politique après le journal, reviendra sur cet élément de langage. Mais d'abord, prenons des nouvelles des Syriens, bloqués en ce moment par les bombardements dans la province d'Idlib, dernier bastion rebelle au nord de la Syrie, contrôlé depuis janvier dernier par une coalition djihadiste issue d'Al-Qaïda. Le régime de Damas et son allié russe la combattent à coups de bombardements lourds depuis 40 jours maintenant. Le manque de garanties autour de la sécurité empêche les journalistes étrangers de se rendre dans cette région. Notre envoyé spécial à Beyrouth, Aurélien Colli, a pu contacter des habitants d'Idlib par les réseaux sociaux.
Pas de trêve hier dans le sud de la province d'Idlib. Abdelaziz El-Adjani est à Kourine, à une quinzaine de kilomètres des zones visées depuis fin avril par le régime et son allié russe.
Not a single day passed without bombing here and there.
Il n'y a pas un jour sans un bombardement. À peu près tous les villages du sud ont été touchés par des roquettes, des missiles ou des barils explosifs. Tous les jours, des civils sont tués, explique cet opposant, membre de la commission politique d'Idlib. Après 40 jours de pilonnage du régime, 200 villages auraient été touchés, 25 centres de santé bombardés. Le bilan dépasserait les 500 morts, plusieurs centaines de blessés et 300 000 déplacés qui ont fui les frappes en remontant vers le nord, déjà saturés par les réfugiés. C'est le plus gros mouvement de population depuis le début de la guerre. C'est un désastre. Deux tiers des déplacés n'ont pas d'abri. Ils sont dans les champs, sous les arbres, explique le docteur Mohamed Ratoub de l'ONG SAMS, qui avec d'autres organisations syriennes appelle solennellement le Conseil de sécurité de l'ONU à agir pour faire cesser la violence et trouver une solution politique à Idlib.
Les combats durent donc dans le nord-ouest de la Syrie. À l'opposé, au nord-est, les familles de djihadistes commencent au contraire à quitter des camps de déplacés saturés en ce moment. 800 femmes et enfants doivent rejoindre les régions de Raqqa et Tabqa plus au centre, rejoindre leur région et leurs habitations, le tout sur la direction des autorités semi-autonomes kurdes. C'est une première opération de ce genre en Syrie. Tous les accords conclus au Soudan entre le Conseil militaire de transition et l'opposition, tous ces accords sont annulés. Le Conseil militaire de transition appelle à organiser des élections anticipées d'ici 9 mois dans le pays, alors qu'hier, l'armée a donné un assaut meurtrier dans le centre de la capitale Khartoum. Au moins 30 personnes sont mortes. Le général Abdel Fattah al-Burhan s'est engagé à mener une enquête sur ces événements, les plus graves, rappelons-le, depuis la destitution du président Omar el-Béchir il y a 2 mois. Mais le militaire semble vouloir se défausser. Il évoque déjà des torts partagés et il n'est donc plus question de négocier. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU devrait se tenir aujourd'hui à huis clos à ce sujet. Quelques cadeaux et des sourires face à la reine d'Angleterre hier. Une réunion plus politique ce matin avec la première ministre Theresa May. Donald Trump poursuit sa visite au Royaume-Uni, petit déjeunant donc avec Theresa May qui doit démissionner, rappelons-le, vendredi. Il sera essentiellement question ce matin de commerce, alors que se dessine difficilement encore le Brexit. Londres et Washington pourraient s'allier un peu plus et pour cela, la première ministre sera bien entourée ce matin, Antoine Gignot.
Autour de la table, des représentants des labos pharmaceutiques, des banquiers et des dirigeants d'entreprises comme le constructeur d'avions de combat Lockheed Martin. Tous font travailler des Britanniques aux États-Unis ou des Américains au Royaume-Uni. Tous cherchent à tirer le meilleur parti du Brexit. L'an dernier, les échanges entre les deux pays ont dépassé les 200 milliards d'euros, un chiffre en constante augmentation. Et ce n'est qu'un début, assure Donald Trump. Le président des États-Unis promet un grand accord commercial une fois que le Royaume-Uni se sera débarrassé de ses chaînes, autrement dit des réglementations européennes qui empêchent pour l'instant l'importation de certains produits comme les volailles lavées au chlore. totalement inacceptable, répondent les représentants de l'opposition. Les États-Unis disent clairement qu'ils veulent des normes alimentaires moins strictes, écrit Vince Cable, le chef de file des libéraux-démocrates, et il pose cette question: comment faire confiance à une administration qui a déjà décidé de détruire les accords sur le climat, le nucléaire iranien et le commerce des armes?
Antoine Gignot depuis Londres pour France Culture. En Italie, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a menacé hier de démissionner en raison des querelles incessantes entre les deux partis qui forment la coalition au pouvoir. Il invite ses deux vice-présidents de la Ligue et du mouvement 5 étoiles à décider rapidement s'ils veulent des élections anticipées ou s'ils préfèrent continuer à gouverner ensemble. En bref, encore, la Chine accuse ce matin d'arrogance le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ce dernier avait déclaré, en évoquant la répression de Tiananmen, que les États-Unis avaient depuis perdu tout espoir d'ouverture de la société chinoise. Il y a 30 ans jour pour jour, l'armée intervenait contre des manifestants pacifiques sur la place Tiananmen à Pékin en Chine, faisant des centaines, voire des milliers de morts. Une répression toujours taboue dans la sphère publique en Chine. Nous y revenons dans les matins de France Culture avec nos invités. Ce sera à partir de 8h20.
Mais pour l'instant, il est 8h06. Clara Lecoq-Réal, nous poursuivons votre journal dans les matins avec une invitation de Gérard Larcher.
Le président Les Républicains du Sénat l'avait envoyé, cette invitation, après les européennes du 26 mai dernier, quand son parti a fait un très mauvais score, 8,48%. Il réunit cet après-midi, à partir de 17h dans un hôtel parisien, des représentants de la droite et du centre pour tenter de définir une ligne claire au sein de son parti, Rosalie Lafarge.
Il veut bâtir un projet pour la droite et le centre. Gérard Larcher a convoqué cette réunion avant la démission de Laurent Wauquiez, mais c'est évident, son départ rebat les cartes, au moins en partie. Sont invités les présidents d'associations d'élus, François Baroin, Dominique Bussereau, Hervé Morin, certains présidents LR de région, Valérie Pécresse, Renaud Muselier et Laurent Wauquiez, et les chefs de file des groupes parlementaires de la droite et du centre, tous ceux qui, dans cette famille politique élargie, sont prêts à entendre parler de rassemblement. Le centriste Philippe Vigier est à la tête de Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale.
Il faut arrêter de s'éclater, plutôt se rassembler. Gérard Larcher est quelqu'un qui a une capacité de rassemblement, une empathie, une expérience. Il sera, j'en suis persuadé, essayer de trouver des voies et des chemins pour que les gens puissent se parler, s'écouter et s'entendre.
Mais si certains au sein du parti félicitent le président du Sénat pour son initiative, d'autres se montrent déjà bien critiques, et notamment les anciens LR. Sébastien Lecornu, devenu ministre d'Édouard Philippe, appelle les maires, les Républicains à quitter le mouvement. Gérald Darmanin, son collègue, ironise sur cette réunion de dirigeants dans un hall d'hôtel pour savoir qui va réorganiser le parti en attendant la prochaine défaite. Le député désormais En Marche, Thierry Solaire, ne voit pas d'autre avenir pour les LR que d'être les supplétifs de l'extrême droite. Et pendant ce temps-là, au Rassemblement National, justement, Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, sont à pied d'œuvre pour faire émerger des alliances avec le parti Les Républicains.
Et pendant que les élus LR appellent au sursaut et que leurs adversaires veulent donc en profiter, le désormais ancien patron du parti s'explique dans les colonnes du Figaro. Ce matin, Laurent Wauquiez affirme avoir démissionné après avoir vu le danger du retour de la guerre des chefs et le désir de revanche chez certains. Quand la ministre des Transports présente le projet de loi d'orientation des mobilités comme une réponse au sentiment d'abandon de certains territoires, des associations lui répondent. Ce matin, certaines associations, dont la Fondation Nicolas Hulot, publient une tribune. Elle demande aux députés d'inscrire dans l'histoire le virage de la transition écologique et sociale. Cette loi-là a été adoptée en juillet dernier, mais elle ne passe toujours pas auprès des principaux intéressés. Quatre syndicats de la SNCF, la CGT, l'UNSA Sud et la CFDT appellent aujourd'hui à la mobilisation des cheminots à Paris, un an après la réforme ferroviaire. Ils dénoncent en chœur la suppression de 900 agents en gare, un travail toujours plus pénible pour les cheminots, la fin d'un statut et donc une convention collective à réécrire qui n'est encore pas bouclée. C'est seulement là-dessus, sur cette convention collective, qu'il pourrait encore obtenir des aménagements. C'est ce que pense l'économiste Marc Ivaldi. Voici l'analyse de ce spécialiste de l'industrie ferroviaire.
Les nouveaux embauchés de la SNCF seront sur un contrat de travail qui n'aura pas les mêmes caractéristiques que le statut de cheminot. Il y a des marges de négociation, là. Les syndicats ont intérêt à ce que la convention collective soit le plus proche du statut des cheminots. Mais il ne pourra plus y avoir la garantie de l'emploi, bon, parce que une des raisons essentielles, hein, c'est quand même que la SNCF devient un statut privé, qu'elle devra faire des bénéfices, ou en tout cas pas de grosses pertes. Elle pourrait être tout à fait aller en banqueroute, hein, donc c'est une entreprise, entre guillemets, normale. l'État ne pourra pas la renflouer comme c'était avant. Donc effectivement, la possibilité de licencier devient une partie des instruments dont disposera cette entreprise.
Un des propos recueillis par Stanislas Vazak. Un délai supplémentaire de 48 heures face à l'afflux trop important de connexions pour déclarer ses impôts en ligne. Hier soir, le gouvernement accorde 2 jours de plus aux contribuables, jusqu'à jeudi minuit donc. Cela concerne les habitants dans les départements allant du numéro 50 au numéro 976. La France résiste mieux que ses voisins en termes d'attractivité. Selon le baromètre annuel EY, l'Hexagone a attiré en 2018 1027 projets d'investissement direct venus de l'étranger. Elle fait ainsi mieux que l'Allemagne, du jamais vu depuis 2009. La France qui attire, oui, mais parfois au détriment de l'emploi. Le groupe américain General Electric a ainsi prévu de supprimer 1044 emplois sur le territoire français, principalement à Belfort. Hier, en visite sur le site, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a demandé au groupe de revoir sa copie. Le plan social en l'état ne va pas, a-t-il dit. Près de 1050 emplois supprimés, c'est trop selon lui. Au chapitre social encore, la direction de Radio France a dévoilé hier son plan d'économie. 60 millions d'euros sur 5 ans, soit 3 fois plus que ce qu'avait demandé le ministère de la Culture. Les syndicats protestent, Cécile de Kervas-Doué.
Radio France est soignée par Diafoirus, s'indigne la CGT. Comme dans Le malade imaginaire de Molière, quand ça va mal on coupe, et quand ça va bien, on coupe aussi. Le syndicat le plus important de l'entreprise rappelle, comme le dit également la présidente, que les comptes de Radio France sont pourtant à l'équilibre, qu'il y a même eu un bénéfice de 7 millions d'euros l'année dernière et que les audiences ont atteint des sommets historiques. Mais la direction se justifie en expliquant que le ministère de la Culture, qui finance 88% du budget de Radio France, a baissé sa dotation de 20 millions d'euros sur 4 ans. Qu'il demande aussi à l'entreprise de trouver 20 millions d'euros pour financer sa transformation numérique et que mécaniquement, le coût des 4500 salariés de Radio France augmente de 5 millions par an. Dans un projet stratégique qui titre « Le nouveau pacte social pour être plus fort », la présidente de Radio France, Sybille Veil, propose donc 3 axes d'économie. Réduire les charges du personnel en supprimant plus d'emplois. Au non-remplacement des départs en retraite, mis en place depuis 2015, un plan de départ volontaire pourrait donc être ajouté. Réorganiser le temps de travail, revoir l'accord des 35 heures, réduire les congés sans compensation, un sujet particulièrement épineux dans une entreprise où de nombreux salariés sont amenés à faire tourner les antennes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jours fériés et week-ends inclus. La présidente prévient surtout que la dotation publique ne va pas cesser de diminuer et qu'il faut donc développer des ressources propres. Radio France ne doit plus se contenter de faire de la radio ou de proposer des concerts, mais doit devenir prestataire de services pour vendre des produits audio à l'industrie culturelle. Sans cette réorientation stratégique et économique, la présidence prévient. Un des 2 orchestres pourrait être amené à disparaître ou une antenne pourrait être supprimée.
Comment favoriser la mixité sociale dans les grandes écoles? La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, lance aujourd'hui une mission de réflexion sur ce sujet. 7 grandes écoles devront faire des propositions concrètes d'ici la mi-juillet. Du concret, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, estime en apporter en présentant 10 mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Notons entre autres un kit anti-harcèlement pour les écoles et les collèges, et pour les parents également. 10 heures de cours anti-harcèlement par an pour les élèves, ou encore une formation des acteurs scolaires à la prévention. Dans les écoles, depuis 5 ans déjà, un concours existe sur ce harcèlement et la lutte contre le harcèlement. 40 000 élèves de 7 à 18 ans travaillent régulièrement sur des affiches, des vidéos qui dénoncent ces cas de violence. C'est hier que les 10 meilleurs projets de l'année ont été récompensés, Clément Comte.
10 projets, 10 histoires autour du harcèlement, comme celle de ces CM1 de l'école primaire Frédéric Mistral à Lyon. Ils viennent de gagner le premier prix dans la catégorie cyberharcèlement avec leur vidéo. Sama nous explique le scénario.
C'est un garçon, il porte une veste de fille à paillettes et il y a un harceleur. Il a un téléphone, il prend sa photo, il l'envoie sur internet. Et écrit, on manque plus que le tutu.
Voilà un cas de harcèlement décrit et joué par ses enfants, largement inspiré de leur quotidien.
Il y avait un CM2 qui se faisait harceler parce qu'il y avait d'autres CM2, il lui avait écrit une chanson sur lui.
Bah, j'ai déjà été harcelée. Il y en a qui me regardent de travers et qui disent que je suis petite et que je ressemble à un garçon.
Et grâce à ce projet commun, grâce à cette vidéo, les comportements ont changé. C'est ce que dit leur professeur, Christelle Perraudon.
Il y a beaucoup plus d'empathie dans la classe, beaucoup plus de respect les uns les autres. Vraiment rien à voir avec le début de l'année.
Même phénomène chez les plus grands. Des lycéens ont aussi participé au concours. Ceux de Clémence Royer, près de Toulouse, ont fini premier dans leur catégorie. Eux ont écrit une chanson.
À coup d'insulte, à coup de pied, c'est la tornade qui le trahissait. Des murmures d'insultes et de lycée, l'école, c'est pas un endroit où on se défoule, c'est un endroit où on cohabite, on co-vit. Et c'est comme ça, on essaie de montrer le harcèlement à travers la musique.
Cette vidéo de Zoé et des autres élèves a été vue près de 7000 fois sur Internet. L'objectif est clair, diffuser ce message anti-harcèlement partout en France.
Ces vidéos et affiches ont donc été postées sur le site Non au harcèlement. Ces projets serviront de prévention. Des averses orageuses arrivent par le nord-ouest ce mardi, de la Bretagne aux Hauts-de-France, puis de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est en passant par le centre Val-de-Loire à la mi-journée. Ailleurs, dans le sud, donc, le soleil va briller. Comptez déjà ce matin 20 degrés à Lille, Paris, Bordeaux, 24 à Périgueux et Marseille et déjà 26 degrés dans la matinée à Lyon.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.